dynamisation du commerce messin, participation de la ville, participation au marché de Noël, monsieur Jean.
Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, au cours des points précédents, j'ai entendu avec joie tout le monde s'inquiéter, se préoccuper du sort du commerce, hein, qui est effectivement un élément essentiel de production de richesses, mais aussi d'animation de la cité. Hein, c'est dans ce cadre-là que la ville de Metz apporte son soutien à la Fédération des commerçants. Donc l'objet de cette motion est double. D'une part, de proposer le versement de cette subvention de 230 000 euros, qui est à l'euro près le même montant que l'an passé, et puis d'autre part de préfigurer en quelque sorte les relations contractuelles que nous souhaitons avoir avec nos partenaires associatifs. Donc ça apporte un début de réponse à des questions qui ont été évoquées, puisque nous soumettons à votre approbation une convention cadre qui définit de manière générale les relations entre une association et la ville, et puis une convention d'objectifs annuels au sein de cette convention cadre qui précise ce qui sera mis en œuvre pour l'année. Par ailleurs, vous noterez que dans cette convention annuelle sont précisées de manière exhaustive les prestations assurées par les services de la ville de Metz, dans la mesure où la tradition voulait qu'on quantifie ce qui doit l'être forcément, c'est-à-dire les versements numéraires, et qu'on mentionne simplement d'éventuelles contributions en nature ou en industrie. Et petit à petit, sur l'ensemble de nos dispositifs de subventions aux associations, nous intégrerons de manière précise et identifiée ces données, donc ces prestations ou ces apports en nature. Voilà, et la motion reprend l'ensemble de ces éléments.
Monsieur Maréchal. Monsieur Lebeau.
Monsieur le maire, chers collègues, vous nous proposez de verser une subvention pour la Fédération des commerçants de Metz pour un montant constant de 230 000 euros afin de participer à la dynamisation du commerce messin et également à l'aider à organiser essentiellement le marché de Noël à Metz. Si on ne peut que se réjouir de la volonté de la ville de maintenir cette subvention à cette fédération qui, à travers son travail et son engagement, porte l'animation du commerce messin pour une part essentielle, on ne peut que regretter l'atonie depuis 3 ans de ces manifestations. Pas de doute, l'Alsace peut rester en France le grand-duché des marchés de Noël, alors qu'à Metz, nous sommes en perte de vitesse depuis 3 ans et on ne peut que le regretter. Ce manque de vitalité, sans doute dû aux pertes financières devenues abyssales il y a 3 ans dans les comptes de la Fédération des commerçants, a des conséquences sur le programme d'activité et sa manifestation phare qu'est le marché de Noël. En effet, depuis 3 ans, on constate de manière constante une diminution inéluctable de l'attractivité du marché de Noël de Metz. L'année dernière a été particulièrement marquée par l'absence, d'une part, de la grande roue, de la patinoire et le manque de signalisation des différents sites des marchés de Noël, dont la place des Charrons a été la principale victime, puisque, essayant de dynamiser cette place, 7 chalets se sont retrouvés sur cette place alors qu'aucune signalisation et aucune information le précisaient. Dieu sait que l'on s'est enorgueilli d'avoir le 2e marché de Noël de France après celui de Strasbourg à Metz pendant des années. Aujourd'hui, on ne peut que pleurer. Celui-ci manque d'un nouveau souffle. Si preuve en est, parce que vous riez tous ici, mais je vais prendre un élément sonnant et trébuchant, parce que les chiffres sont les chiffres et les chiffres disent la vérité. Les recettes, monsieur le maire, liées à la location de chalets sont en diminution de 10% dans les comptes de la Fédération des commerçants pour l'exercice 2009. C'est un véritable message de détresse que je lance ce soir. On peut discourir ici ou c'est la récréation ? Monsieur le maire, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures.
Laissez parler l'orateur, s'il vous plaît, ne l'interrompez
pas. Merci, monsieur le maire, d'intervenir. C'est un véritable message de détresse que je lance ce soir afin que nous prenions conscience de l'importance que revêt le marché de Noël pour l'attractivité touristique et économique de notre ville. Mobilisons-nous pour redonner un nouveau souffle à cette animation capitale de fin d'année qui peut faire venir davantage de touristes et qui a fait venir davantage de touristes que le centre Pompidou. On parle toujours de renouveau de Metz. Mais n'oublions pas que les marchés de Noël de Metz ont fait venir plusieurs millions de personnes durant la période, oui, sur plusieurs années, mais plusieurs millions de personnes dans notre ville. Quel est le problème, monsieur le maire ? Cette motion nous propose de subventionner l'organisation du marché de Noël à hauteur seulement de 43 301 euros, soit un taux de financement pour cette activité de 6,43%, ce qui est ridicule quand on voit ce qu'on fait ailleurs dans les différentes activités. Ce n'est pas assez, monsieur le maire, pour permettre le renouveau nécessaire de ce marché de Noël. Il faut faire plus et mieux pour ces marchés de Noël. C'est pourquoi le financement proposé par la ville de Metz du programme d'action ne me semble pas le meilleur. Je vais m'expliquer, monsieur le maire. En effet, eu égard à la situation financière très délicate de la Fédération des commerçants, où on a encore une situation nette négative conséquente, la Fédération des commerçants doit se concentrer sur quelques animations phares. Et la ville de Metz doit l'aider sur ces animations phares. Je vais prendre une des activités que la ville finance à hauteur de 57,12%. L'action de distribution des roses à la fête des mères, financée à hauteur de 57,12%, est-elle vraiment essentielle et permet-elle de faire venir plus de clients dans la ville ? Je ne le pense pas. Peut-on pas mobiliser ces fonds pour le marché de Noël ? Parce que l'argent n'est pas infini. L'argent n'est pas infini aujourd'hui.
Laissez parler l'orateur, s'il vous plaît. Madame Zimmermann, vous interviendrez tout à l'heure.
Non, mais la fête des mères, c'est ça. Mais c'est sympathique, la fête des mères. Je veux dire, mais ça ne fait pas venir un client de plus à Metz si on lui offre une rose. Soyons francs. Est-il normal que la politique des quartiers de la Fédération des commerçants soit financée à 100% alors que les cotisations des commerçants devraient abonder également. Est-il normal que la boutique des services soit financée à hauteur de 90%? Je crois que ce dossier est mal préparé et il mériterait d'être revu de A à Z. Pourtant, Dieu sait que vous avez le meilleur adjoint dans la qualité de Thierry Jean, mais ce soir, je crois qu'il avait l'esprit ailleurs. Parce que d'habitude, il nous habitue à faire des choses merveilleuses, mais pas ce soir. Monsieur le maire, les marchés de Noël de Metz sont consubstantiels à notre ville. Nous devons offrir un marché digne de ce nom. Mais monsieur le maire, on peut...
C'est trop long.
Laissez poursuivre l'orateur.
Les marchés de Noël de Metz doivent être dignes de ce nom afin que les Messins et les touristes qui visiteront durant cette période merveilleuse de fête puissent s'émerveiller encore et toujours davantage à Metz. Je vous remercie.
Merci. Monsieur Thiel. Éventuellement, vous pouvez répondre. Hein.
Écoutez, je vous en laisserai le soin parce que mon intervention ne visera pas complètement le centre du dispositif qui a été abordé par Emmanuel Lebeau, mais vous dire simplement que je crois que la dynamique d'un commerce dépend certes des animations qu'on peut faire, les roses, Noël ou un certain nombre de choses, je ne sais pas. Mais je crois que, pour ma part, ce qui est essentiel au commerce, c'est l'environnement que suscite une ville. Et ce soir, en approuvant, bien entendu, le rapport et le point, parce que ça, c'est, je dirais, la subvention donnée pour les actions commerciales, qui complètent d'ailleurs les actions de la ville, je voudrais simplement appeler votre attention sur un certain nombre de points qui sont relevés par les commerçants eux-mêmes. Je n'ai pas dit la fédération des commerçants, j'ai dit les commerçants eux-mêmes. Le premier point, qui est un point knechtien, si on peut me permettre, c'est celui des parkings et du stationnement. Vous savez, il avait une devise, alors de temps en temps, je n'étais pas tout à fait d'accord, « no parking, no business », au point d'avoir un jour rêvé d'ailleurs de faire plusieurs étages dans la cathédrale, m'avait-il dit, c'était... Bah. Mais passons les plaisanteries. Mais en revanche, monsieur le maire, c'est pour moi l'occasion de vous rappeler que nous aurions souhaité qu'à côté du parking Mazel, qui va s'ouvrir bientôt et qui sera un élément favorable, du parking Pexan, qui va ouvrir certainement à la fin de l'année, qui est un élément favorable, eh bien, on puisse, à côté du jardin du Luxembourg, je fais toujours très attention à ce que je dis, prévoir un parking ici, en silo ou un petit peu le long de la Moselle, mais qui ne gâterait en rien le square du Luxembourg où nous sommes l'un et l'autre attachés, mais qui permettrait de résoudre des problèmes de stationnement qui vont devenir inextricables avec la suppression à terme du parking sauvage à côté de l'hôtel de police, la suppression en raison du métis, et ça serait d'ailleurs bien pour la beauté de la ville sans doute, du stationnement place Saint-Vincent, et je crois que là, il y a un problème sur lequel je voulais insister, celui du parking. Le deuxième, mais je sais que vous êtes vigilant, je ne veux pas trop vous lancer là-dedans parce que je sais que vous êtes vigilant sur...
Je connais
votre discours par cœur sur ce point-là.
Deuxième... Je connais le vôtre aussi, hein.
Oui, bon. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, sur l'environnement, monsieur le maire, c'est, et là encore, ça ressort du sentiment exprimé par les commerçants, c'est qu'ils trouvent que la ville n'est plus assez propre. Et que là où jadis... On avait alors des exemples précis. Alors je suis passé aujourd'hui, ça a été nettoyé. Bon, mais j'ai une photo. À côté du magasin qui vient de s'ouvrir là, le G-Star qui prend la suite du London Home, etc. Il y a plusieurs exemples comme ça dans les quartiers. La cabine téléphonique, c'est plus une cabine téléphonique. C'est un endroit d'affichage sauvage. Je sais que vous êtes vigilant sur les poubelles qui sortent, etc. Mais là encore, c'est un gros problème. Et puis un autre point de vigilance aussi, c'est les poteaux. Vous savez, les poteaux, les descentes, les glissières, les poteaux, les candélabres. Jadis, on était extrêmement vigilants. Quand il y avait des manifestations, notamment syndicales, il était de bon ton de coller des trucs sur les poteaux. Ben, après, c'était nettoyé par les mêmes syndicats ou alors on envoyait la facture. Je ne suis pas bien sûr que la vigilance soit aussi... forte qu'auparavant. Et alors, au risque d'agacer Madame Hébert-Suffrin, c'est la sécurité. Donc, parking, environnement, propreté et sécurité. Et là, ben oui, cher ami, même si c'est du violon, un doute plane à l'heure actuelle sur la vidéosurveillance à Metz. Alors que le gouvernement a prévu d'aider de manière assez forte un dispositif de vidéosurveillance dans des grandes villes. Lyon a été la première ville. Lyon, monsieur le maire, s'il vous plaît. Lyon, ville socialiste. Gérard Collomb a été la première ville à entrer dans le dispositif d'un accroissement de la vidéosurveillance. Aujourd'hui, monsieur le maire, on voit des commerces, ça n'arrivait plus, qui au centre-ville sont, on casse des vitrines, etc. Je voudrais bien savoir si nos caméras seraient aussi efficaces, par exemple, que dans une affaire récente en banlieue de Metz, où on recherche par les procédés de la vidéosurveillance donnée aux magistrats l'occasion de savoir qui a renversé une policière municipale dans une ville qui n'est pas très loin de chez nous, par exemple. Alors, monsieur le maire, il y a un doute qui plane aujourd'hui dans l'esprit des commerçants. Premièrement, on sait bien que vous ne voulez pas l'étendre, sinon Madame Hébert-Suffrin ne se serait pas donné le loisir d'organiser une conférence pour prouver que la vidéosurveillance était nulle et que c'était truqué, que ça ne servait à rien, etc. Mais, donc, là encore, là encore, preuve d'un certain dogmatisme en la matière, alors que d'autres villes socialistes aussi, c'est complètement à côté de la plaque. J'aimerais qu'on lève des doutes. Alors, monsieur le maire, je veux bien servir de témoin. Et Dieu sait que ça sera encore plus efficace que si c'était l'un des vôtres, parce qu'on dira que c'est forcément un membre de l'opposition et un président. M'autorisez-vous, à la fin de ce conseil, de descendre, dire bonjour aux policiers municipaux qui se trouvent en bas et qui sont à la vidéosurveillance et qui normalement y étaient 24 heures sur 24, donc quelle que soit l'heure à laquelle, voilà, pour voir si oui ou non les caméras de vidéosurveillance fonctionnent toujours. Voilà.
Alors, je vais vous répondre sur ce point tout de suite. Je vous autorise pas et ils y sont.
Voilà. Ah oui, mais alors attendez. Attendez, monsieur le maire.
Vous pouvez continuer.
Non, mais ça. Là, on va vous dire que vous manquez de transparence, monsieur le maire. Ça serait bête. Bon. Alors, premièrement, je me répète, parking, propreté, sécurité. Enfin, je voulais terminer mon propos sur quelque chose qui, évidemment, est de l'ordre, allez, on va dire, de quelques modes qui se développent, où peut-être nous n'y pouvons rien, mais en tous les cas, c'est un constat. Metz, la commerçante, attirait beaucoup de monde. Aujourd'hui, se répand dans la rumeur, alors ça ne veut rien dire, la rumeur, que le plus chic, le plus branché, c'est de considérer que le centre de ville de Metz ne vaut plus le coup, que les grandes enseignes ne sont plus représentées et que rien n'est plus chic pour les gens de Metz d'aller faire leurs courses à Luxembourg, voire à Nancy. Alors, moi, je me souviens d'une époque où rien n'était plus tendance que quand on était luxembourgeois ou nancéen que de venir faire ses courses à Metz. Alors, je sais bien que ça dépasse un peu nos débats municipaux, mais je dirais simplement qu'il faut créer les conditions d'environnement pour que le commerce fonctionne, et je crois qu'on est bien loin à ce moment-là du cœur du rapport et des 230 000 euros qui nous sont proposés ce soir.
Merci. Monsieur Maréchal.
Oui, monsieur le maire, je voudrais pas faire un discours, mais je voudrais formuler quatre remarques très très rapides. La première, peut-être pour dire ma conception, notre conception, je pense, du commerce, c'est que l'activité du commerce, sa bonne santé, dépend d'abord d'un paramètre que personne ne peut nier, c'est le pouvoir d'achat des salariés. Hein? On peut parler chic, on peut parler tendance, mais quand les familles n'ont pas d'argent, elles ne font pas d'achat et elles font d'autres choix. Hein? Je voudrais également évoquer, en deuxième remarque, le commerce, non pas tant du point de vue de l'activité économique, mais je pense qu'ici, on ne fait pas assez référence à ceux et celles qui créent la richesse dans le commerce. Je veux parler des salariés. Des salariés du commerce qui, souvent, travaillent beaucoup pour un salaire, voire un tout petit salaire. Et tout le monde le dit, tout le monde espère, le commerce messin va probablement bénéficier de la retombée de l'ouverture de Pompidou. Hein? Il va donc bénéficier d'une nouvelle part de valeur ajoutée. La question qu'on peut se poser légitimement, est-ce qu'une part de cette valeur ajoutée va revenir aux salariés du commerce, de l'hôtellerie, de la restauration, qui feront, je pense, beaucoup d'efforts et qui auront, je crois, une surcharge de travail. La deuxième remarque que je voudrais faire, et elle concerne ici, y compris, je pense, également notre conception de la ville, moi, je souhaiterais que la ville joue un rôle positif pour favoriser le dialogue social territorial dans ce secteur professionnel, notamment peut-être pour créer un espace de dialogue entre les commerçants, la fédération de commerçants et les organisations syndicales. Comme vous le savez, c'est pas Thierry Jean qui me contredira, une très grande majorité des salariés du commerce travaillent dans des tout petites entreprises de moins de 10 salariés. Ce sont donc des salariés qui n'ont pas de droits sociaux, qui n'ont pas droit aux instances représentatives du personnel. Et je pense peut-être que sous notre impulsion, que la mise en place d'une instance de concertation pourrait créer un nouveau espace de dialogue utile pour faire entendre le point de vue des salariés du commerce. Et ma troisième remarque, de nature un peu différente, nous avons assisté au cours du mois écoulé à une certaine ouverture ou fermeture de magasins, notamment liée à cette à cette supercherie, à ce vol qui est la suppression d'un jour férié lié au lundi de Pentecôte. Moi, j'ai été choqué, je vous le dis comme je le pense, que beaucoup de commerçants avaient choisi de laisser d'être ouverts le samedi 8 mai, alors que le jeudi de l'Ascension, une grande majorité de commerçants étaient fermés. Le républicain que je suis considère que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Le 8 mai, la victoire sur le nazisme, c'est une victoire, c'est un férié qui concerne toute la population, tous les républicains, croyants ou non-croyants. Le jeudi de l'Ascension, c'est une fête typiquement religieuse, qu'on peut respecter, mais moi je considère que dans les prochains temps, il serait plus judicieux peut-être que de faire en sorte que l'activité commerciale respecte aussi un peu mieux les valeurs premières de la République. Je vous remercie.
Merci, Monsieur Maréchal. Alors, je vais peut-être demander à Madame Hébert-Suffrin de répondre en ce qui concerne les caméras, parce que c'est une spécialiste, elle a étudié la question. Et Monsieur Thierry Jean pour les propos relatifs au commerce, puis peut-être qu'après ça, je ferai un petit commentaire, compte tenu de l'importance des déclarations qui ont été faites par Monsieur Thiel. Madame Hébert-Suffrin.
Oui, Monsieur Thiel, c'est déjà inquiété à plusieurs reprises de la vidéosurveillance. C'est un cheval de bataille. Alors là aussi, au risque de vous décevoir, je n'ai pas, contrairement à ce que vous dites, de dogmatisme sur la question. C'est une question, je dirais, là aussi très pragmatique, de rapport d'utilité et de coût, tout simplement. C'est pas plus bête que ça. Alors nous avons de la vidéosurveillance et nous ne l'avons pas supprimée. Et il y a un certain nombre de caméras en centre-ville, elles sont suffisamment nombreuses. Nous les utilisons et quelquefois, effectivement, la police nationale nous demande de visionner les bandes et lorsque des choses sont intéressantes, ils les utilisent. C'est relativement rare, je dois dire. Parce qu'il ne faut pas croire non plus que la vidéosurveillance, qui est un moyen technique, est une panacée et que parce qu'on enregistre des images, on voit tout. C'est pas vrai. Et quelquefois, même la résolution des images, même lorsque quelque chose est enregistré, la résolution des images ne permet pas de voir tout ce qu'on souhaiterait voir. Et c'est assez rare d'avoir des fragments de lit. Nous en avons eu un ou deux, je ne le nie pas. Je ne dis pas que ça n'est pas utile du tout. Non, c'est pas ça du tout. Je mesure l'utilité par rapport au coût. Voilà. Nous avons eu effectivement une conférence... Il y a peu, l'utilité par rapport au coût. Alors, vous disiez que l'État subventionne. Certes, l'État verse une subvention de 30 à 50% pour l'investissement. Mais derrière l'investissement, dont une part quand même relativement importante reste à la collectivité, il y a un coût de fonctionnement. Et c'est ce coût de fonctionnement qui est le plus important. C'est ce coût de fonctionnement qui est le plus important. À l'heure actuelle, pour la ville de Metz, compte tenu du nombre de caméras que nous avons, le coût de fonctionnement, de maintenance et de frais de personnel, nous fonctionnons en H24, monsieur Thiel, nous fonctionnons toujours en H24. La vidéosurveillance et le PC de commandement fonctionnent toujours en H24. Donc, il n'y a pas là de désengagement. Ça représente en coût 420 000 euros par an. Voilà, 420 000 euros par an. Plus vous multipliez les caméras, plus vous multipliez le coût. Par rapport au nombre de faits constatés par les dites caméras, ce coût paraît extrêmement élevé. Pour vous donner, pardon, la dissuasion n'existe pas, pratiquement pas. La dissuasion n'existe pas. Pardon.
S'il vous plaît, vous pouvez bien écouter Madame Hébert-Suffrin.
Vous faites allusion à la conférence qui a été donnée dans ces lieux mêmes, à laquelle vous n'avez pas assisté, je crois. Madame Collin-Austerlé était là, effectivement. J'ai bien constaté sa présence. Cette conférence a été le fait. Cette conférence a été donnée par un universitaire chercheur qui est un des rares spécialistes français de ces dispositifs, pardon, des chercheurs, oui, des universitaires chercheurs, professeur,
s'il vous plaît.
Ce professeur a étudié l'ensemble de ce qui a été fourni comme travail universitaire dans les différents pays anglo-saxons, Parce qu'en France, il n'y a pratiquement pas eu de... On est très en retard sur l'étude de ces dispositifs en France depuis qu'ils sont installés. Je vous rappelle qu'ils sont installés... Ils ont vu le jour en 95 et c'était lié à la lutte antiterroriste, de même que dans les pays anglo-saxons. Depuis, ça s'est, développé et dans un contexte différent. Voilà. Mais l'effet de dissuasion est à peu près nul, et ça, nous le constatons aussi, et en particulier sur quelque chose qui est le plus préoccupant, c'est-à-dire sur les atteintes physiques aux personnes. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est assez simple à comprendre, parce que dans la plupart des cas, ces atteintes aux personnes, qui c'est vrai, elles augmentent, je vous l'accorde. Et ça, c'est aussi les chiffres de la police nationale. Et ça, c'est très préoccupant. Mais encore une fois, la sécurité des personnes, c'est une fonction régalienne. C'est une fonction de la police nationale. Alors, c'est vrai, c'est assez préoccupant, mais là-dessus, les caméras sont à peu près impuissantes à éviter le fait. On peut constater, on peut quelquefois identifier quand on a de la chance, mais la plupart des agressions sur les personnes sont... des faits, qui surviennent, qui sont spontanés, impulsifs, surtout en ce moment, et par conséquent, nous n'aurons aucune dissuasion sur ces phénomènes. Aucune dissuasion. Pardon ? Eh bien, l'agression homophobe, elle s'est produite effectivement dans une rue surveillée par des caméras, et ça ne l'a pas empêché. L'agression sur la policière de Voipie que vous évoquez, la caméra ne l'a pas évitée non plus, même si elle a pu être utile pour rechercher. Ça ne l'a pas évitée. Nous parlons de prévention, nous parlons de dissuasion. Hein ? Bon, encore une fois, je ne nie pas l'utilité, mais très relative, et c'est ce que cette conférence a mis en évidence, des caméras de vidéosurveillance. Néanmoins, encore une fois, nous les utilisons, et j'ai même demandé le déplacement de l'une d'entre elles pour mieux surveiller un secteur qui nous préoccupe. C'est pourquoi je dis que nous n'avons pas d'attitude dogmatique en ce domaine, mais nous avons misé davantage sur la présence physique des policiers plutôt que sur l'extension de ce dispositif en raison de son coût.
Merci, madame.
Par ailleurs, en ce qui concerne la possibilité de pénétrer dans le local de vidéosurveillance, je voudrais simplement rappeler que les textes qui sont très précis là-dessus interdisent à toute personne non autorisée de pénétrer dans le local. Et les personnes autorisées sont celles qui sont citées dans l'arrêté préfectoral. Il y a des caches noires pour préserver l'intimité, mais ça n'est pas pour autant que vous êtes autorisé à pénétrer dans le local de vidéosurveillance. Seules les personnes... Non, sauf que ce sont les personnes nommément désignées dans l'arrêté préfectoral qui autorisent le dispositif à pénétrer dans ce local. Voilà.
Merci. Monsieur Jean, s'il vous plaît, pour répondre sur l'aspect commercial.
Oui. Oui, puisque finalement, c'est le sujet, quand même. Alors, si je fais le tri un petit peu dans tout ce qui a été dit, d'abord, je dois dire à Monsieur Lebeau que je suis sensible à ces compliments, même s'ils me cassent un petit peu vis-à-vis des copains. Vraiment. Les chiffres disent la vérité, disait M. Lebeau. Tout dépend comment on les présente. Hein. Quand on dit qu'on ne finance qu'à hauteur de 6% le marché de Noël, alors qu'on finance la fête des mères à hauteur de 50 et quelques, oui, on met 43 000 euros dans le marché de Noël et on met 14 000 euros sur la fête des mères. Bon, les commerçants qui cotisent à la Fédération des commerçants sont demandeurs d'animation tout au long de l'année, pas seulement du marché de Noël. Bon... À côté de ça, il y a des chiffres qui sont exacts. Le chiffre d'affaires de location des chalets a baissé entre 2008 et 2009. Il avait déjà légèrement baissé entre 2007 et 2008. Pourquoi ? Parce que ceux qui s'en souviennent savent que l'un des, des épicentres, il y en a trois, hein, l'un des épicentres du marché de Noël, c'était la place de la République. Un place de la République sur lequel il y avait la grande roue, la patinoire, mais surtout toute une rangée de chalets à la limite entre la République et l'Arsenal, et l'Esplanade, pardon, qui n'était tout simplement pas possible d'installer fin 2009, début 2010. Donc le marché de Noël, le marché de Noël 2009 a été atteint par ça, et la caractéristique majeure du marché de Noël 2010, ce sera de réutiliser, de réinvestir la place de la République, de le réinvestir beaucoup mieux. Je dévoile pas je ne dévoile pas de secret, hein, mais il y aura des choses nouvelles et plus ambitieuses que la dernière année avant les travaux, qui était 2007. La situation financière de la Fédé, ben, elle s'améliore lentement. C'est vrai que peut-être que toutes les précautions n'avaient pas été prises jadis, comme dirait Monsieur Thiel, hein, puisqu'en 2006, quand la Fédé a connu un déficit de 45 000 euros, on n'a pas réagi. Quand en 2007, elle a connu un déficit de 176 000 euros, on a réagi parce que c'était nous. D'accord. Donc, et là, en 2008, la Fédé a réussi à revenir à l'équilibre au prix d'un certain nombre de sacrifices. Non, la subvention En 2008, donc, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été supprimées, et notamment le marché de Pâques, la fête de la bière. Hein, il y a eu un certain commerçard. Hein, qui ont été des sources de déficit. On a piloté ça ensemble. Et aujourd'hui, en 2009, il y a un excédent qui n'est pas extraordinaire, qui est de 43 000 euros, mais qui permettra au fil du temps de revenir à l'équilibre et de ramener des fonds propres positifs. Pour le reste, la politique des quartiers, on ne la finance pas à 100%. La politique des quartiers, ça fonctionne de la manière suivante. Une association de quartiers. Il ne faut pas oublier que la Fédération des commerçants, c'est une fédération, comme son nom l'indique, et qu'elle fédère 18 associations. Lorsqu'une association de quartier organise un événement quelconque, les braderies de quartier que vous connaissez, eh bien, cette association, lorsqu'elle apporte un euro, la Fédé apporte un euro. Ça veut dire que ce financement que nous portons, en réalité, c'est simplement un financement à 50%, hein, et il est légitime que nous le portions essentiellement. Il y a aussi une volonté de cohérence, hein, pour éviter de vous soumettre tous les mois plusieurs subventions de quelques centaines à quelques milliers d'euros à des associations de quartier. Eh bien, on en parle une fois dans l'année. En ce qui concerne la boutique des services, c'est quelque chose que beaucoup de villes mettent aujourd'hui en place. Hein, j'étais encore récemment à une réunion de la Fédération des centres-villes, parce que il y a besoin d'un lieu, et il y aura de plus en plus besoin d'un lieu, parce que figurez-vous que dans la politique qui est celle de notre équipe, il y a une volonté de favoriser d'autres modes de transport qui présentent tout un tas d'avantages, mais qui présentent parfois l'inconvénient qu'il est moins facile de trimballer des paquets, d'accord, hein, et partant de là, le fait qu'il y ait un lieu où on développe des services, on est en train d'y réfléchir, ça paraît pas complètement délirant. Je répondrai pas à tout ce qu'a dit M. Thiel, parce qu'il y a des choses qui ne concernent pas le commerce, même si ça relève de son environnement. Par contre, lorsque M. Thiel dit que le commerce messin est moins attractif, qu'on a pu Metz la commerçante, il faut savoir que le commerce messin garde un certain nombre d'atouts. Hein, dans combien de villes est-ce qu'on a les deux enseignes de grands magasins que nous avons à Metz? D'accord? Hein, c'est quand même une... Il y a très peu de villes. Metz est la plus petite ville où il y ait à la fois les deux enseignes emblématiques de grands magasins. C'est vrai aussi pour les deux enseignes phares dans le domaine culture-loisirs. Voilà, tout à fait. Bon, ça démontre quand même une attractivité de l'espace commercial messin pour les enseignes. Il ne faut pas le casser, mais ça existe. Quel travail il faut faire par rapport à ça? Je vous avais fait une présentation rapide du schéma de développement, du schéma de développement économique de l'agglomération. L'un des axes de travail, c'est faire de Metz l'épicentre du commerce de la grande région. Quand on dit faire de, certains pourraient dire refaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est moins attractif, notamment vis-à-vis de l'étranger. L'une des raisons étant très très indépendante de notre volonté, ayant beaucoup d'effets positifs par ailleurs, c'est tout simplement l'euro. Il ne faut pas oublier que le commerce messin était très très attractif du temps où il était intéressant pour des raisons strictement monétaires de venir d'Allemagne ou du Luxembourg acheter à Metz. Bon, ça c'est un... Aujourd'hui, cet élément n'existe plus. Par contre, tout à l'heure a été évoqué l'amphithéâtre. L'amphithéâtre, c'est un pari sur l'avenir. L'amphithéâtre, c'est du commerce à l'amphithéâtre. Non seulement ce n'est pas dirigé contre le centre-ville, mais c'est simplement une volonté d'élargir un petit peu le raisonnement. D'abord, on a du temps. Le centre-ville a du temps. Le centre-ville a 5 ans, 6 ans peut-être, pour profiter de la dynamique de Pompidou avant l'ouverture du centre commercial qui a été approuvé, en CDAC. À ce propos, je voudrais rendre justice à mon collègue Sébastien Koenig, puisque moi j'étais à l'autre bout de la France ce jour-là, c'est lui qui était en CDAC pour y représenter la ville de Metz. Alors c'est vrai que le fait d'obtenir l'unanimité exige peut-être un petit travail de préparation, mais c'est très important. Pourquoi ? Parce que ça évitera de laisser ça affaiblira d'éventuels recours. Et puis d'autre part, faut pas oublier, et ça j'ouvre une parenthèse parce qu'il n'y a plus de parlementaires, mais il y en a un. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a plus de CDEC, il y a aujourd'hui des CDAC. Et c'est très différent. Aujourd'hui, on n'a plus la main sur l'offre commerciale, on a seulement la main sur l'aménagement commercial, avec des préoccupations de type développement durable, aménagement du territoire, j'en oublie, architecture. Et ça, ce sont des personnalités qualifiées nommées par le préfet face aux collectivités territoriales. Il n'y a plus de représentants des professions. Alors, la stratégie de développement du commerce messin, elle passe par un renforcement du centre-ville, elle passe par la volonté de créer un quartier nouveau, mais ça, je ne le développerai pas, ça l'a été par ailleurs, et elle passe aussi par tout un environnement, au-delà même des limites de l'agglo. Hein, parce que ce qui fait aujourd'hui l'attractivité d'un espace commercial, ce n'est pas seulement quelques rues. Hein. Il faut raisonner beaucoup plus globalement. Et j'ai souvent l'occasion de dire que même au-delà de l'agglo, il y a des éléments d'attractivité commerciale dont Metz, et en particulier le centre-ville, doivent pouvoir tirer parti. Voilà ce que je voulais dire de ce point de vue-là. Pour le reste, je remercie les orateurs de leur soutien à la Fédération des commerçants.
Bien. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions ? Il y avait encore quelques questions qui ont été posées sur la politique des parkings. Je pense qu'on y reviendra une autre fois, si vous voulez bien, Monsieur Thiel, parce que c'est une affaire un peu complexe et ce n'est pas au détour d'un point sur le marché de Noël qu'on peut débattre de cet aspect des choses, ni même de la propreté, parce que c'est la même chose. Il y a toute une politique, une stratégie à développer avec Metz Métropole. S'agissant des demandes de M. Maréchal, elles sont légitimes. Hein, l'organisation des salariés dans les petites unités, notamment dans le commerce, c'est un vrai problème. Et c'est en cours.
Non, on le fait.
Ça y est.
Oui, oui. Moi, j'ai eu l'occasion plusieurs fois de recevoir les représentants syndicaux, même si effectivement, ce sont des gens issus de grandes enseignes hein, et qu'ils ont peut-être du mal à faire passer leur message. Mais depuis que nous sommes là, on a complètement pacifié les relations et on travaille notamment sur les ouvertures de dimanche avant, après Noël. Et on a essayé ici de jouer un rôle de facilitateur dans les relations entre les syndicats et, bien sûr, pour ce qui relève de sa compétence, sous l'égide du préfet.
Monsieur Maréchal, encore un mot par rapport à l'ouverture ou non le 8, le jour de l'Ascension ou le 8 mai. Moi, je vais vous dire que j'ai été choqué, puisque vous avez été choqué par certaines ouvertures. Moi, j'ai été choqué par certaines fermetures. J'ai été extrêmement gêné de voir des touristes qui étaient venus visiter le centre Pompidou, qui se promenait dans la ville de Metz, un guide à la main, et qui trouvait partout des restaurants fermés. Et j'ai été extrêmement choqué, et je m'en suis ouvert au président des CHR, M. Hedges, en lui disant que je pense que les restaurateurs et tous les gens qui font un travail de bouche doivent être attentifs à l'arrivée de touristes en grand nombre avec l'ouverture du centre Pompidou. Et j'estime pour ma part que la réponse de l'ensemble des restaurateurs de Metz n'était pas à la hauteur de la situation. Et
alors que tout le monde était prévenu, etc. Et on nous a dit, il faut attendre de voir. Là, on voyait. Les gens étaient là, et ce n'était pas ouvert. Et j'ai vu des gens en difficulté pour se nourrir. Et donc, je le dis ici d'une façon forte, il faut aussi que le commerce s'adapte aux situations de notre ville. Et il est logique pour des restaurateurs de travailler quand des gens ont besoin de manger, parce qu'accessoirement, on mange tous les jours, et quand on est touriste, on ne peut pas faire autrement que d'aller dans des endroits où on peut se restaurer. Voilà ce que je voulais dire à propos de votre intervention sur les ouvertures et les fermetures. Maintenant, y a-t-il des oppositions au point numéro 27? Il n'y en a pas, des abstentions? Eh bien, je vous remercie.